Point n'est besoin de comparaître ici, menotté au point, entre deux gendarmes, pour se sentir écrasé par ce temple monumental, cette cathédrale du droit.
C'est sûr qu'on n'écrit plus les reportages comme il y a 40 ans. Mais le palais de justice de Bruxelles, lui, il a peu changé.
Gendarme, veuillez faire entrer l'accusé.
Ce gigantisme, ces boiseries qui craquent.
Ce redoutable labyrinthe ténébreux, où s'enchevêtrent couloirs et volets d'escaliers, où le malheureux justiciable, déjà obsédé par l'affaire qui l'amène en ces lieux, se sent bientôt l'intrus dans un monde hostile, froid et rébarbatif.
Vous voyez des hommes là en noir. Ils sont tous habillés en noir, avec une robe noire. Déjà, quand ils entrent dans une salle ainsi que le juge entre, vous voyez tout le monde se lever. Vous trouvez que c'est pour arranger les sauces, hein?
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous les mouches, c'est une expression belge, un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « après moi les mouches » dit qu'il s'en fiche en fait de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants, les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Cet épisode parle de la justice, de la façon dont les questions de climat s'invitent dans les tribunaux. De plus en plus souvent, des citoyens ou des associations poursuivent des États ou des entreprises pour leur inaction. Pourquoi ? Est-ce que ça marche ? Et est-ce que la justice sort de son rôle ? Cet épisode-ci, pour une fois, ne m'a pas laissé de coups de soleil ou de rhume ou de boue sous les baskets. Plutôt qu'un reportage, cette fois, c'est une double rencontre. Mais quand même dehors. À ma droite, un espace vert, à ma gauche, des bureaux, et au centre, on l'entend, c'est le boulevard de la Woluwe, un grand boulevard bruxellois.
Bonjour.
Ce lieu de rendez-vous, c'est Damien Mangon qui l'a choisi. Il m'a dit qu'il m'expliquerait pourquoi.
Damien.
À le voir venir vers moi, je me dis qu'il y a un peu de contraste entre ce boulevard 5 bandes et le t-shirt qu'il porte, qui dit « Lost in Paradise », donc « Perdu au paradis ». On repère un banc public sur la rive parc du boulevard, et il commence à me raconter.
Je m'appelle Damien Mangon. J'ai 23 ans, je suis étudiant à l'ULG, enfin le Liège maintenant. Je suis une victime du changement climatique et je poursuis l'État belge et d'autres États à la Cour européenne des droits de l'homme.
Vous venez pas de Liège ?
Non, en fait, je viens de Chauxfontaine, c'est dans la périphérie de Liège. C'était un très beau quartier, ça ne l'est plus du tout, ça a été ravagé durant les inondations de l'été dernier. C'était un mercredi, si je me rappelle bien. Oui, un mercredi. J'étais chez moi, l'eau a commencé à monter et je dormais. Et ensuite, je me suis réveillé qu'il y avait l'eau dans mon jardin. Sauf que ma maison étant légèrement surélevée par rapport à la rue, quand il y a l'eau dans mon jardin, c'est la fin du monde. C'est littéralement, je sais qu'il n'y a personne qui pourra venir me chercher. Ma famille ne pouvait pas venir me chercher, les urgences ne pouvaient pas venir me chercher. J'avais les côtes cassées, du coup, je ne pouvais pas me faire héliporter ou quoi que ce soit. Je suis donc resté chez moi pendant 2 jours. Bah, en fait, toute la durée des inondations, je suis sorti de ma maison après les inondations. Et il y a beaucoup de choses auxquelles j'étais pensé, comme oui, il faut que je prenne les papiers des assurances, il faut que je prenne les papiers importants, les souvenirs de famille. Si bien qu'à la fin, j'ai juste sauvé mon chat, sauvé des papiers et les souvenirs de famille. Et que j'ai même pas pensé à prendre de la nourriture ou à boire. J'ai juste à la toute fin pris un pain et je me suis un peu réveillé de tout ça dans ma chambre en disant bon, bah voilà, j'ai du pain, un peu d'eau et du chocolat qui traînait dans ma chambre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pendant 2 jours et quelques.
Il n'avait plus de courant, plus de wifi. Mais son téléphone avait du réseau, alors il le rechargeait sur les batteries des ordinateurs qu'il avait pu monter à l'étage, jusqu'à ce qu'elles se vident aussi.
J'ai utilisé toutes les batteries en fait, pour charger à chaque fois mon GSM et pour tenir ma famille au courant, mais à partir du 2e jour, j'aurais envoyé un message. Bon ben voilà les gars, je suis désolé, mais maintenant j'enverrai plus un message toutes les heures ou toutes les demi-heures. Maintenant j'enverrai un message et ce sera peut-être toutes les 2-3 heures parce que j'ai plus assez de batterie. En fait, il n'y a plus rien à charger. Avant les inondations... Bah, je pensais jamais qu'un jour je pourrais dire « Oh voilà, je suis une victime climatique ». Pour moi, c'était « Oh, une victime climatique, c'est bien loin, c'est dans un autre pays, dans le sud. Jamais ça m'arrivera à Chefontaine, qui est une ville protégée en Europe, avec plein de systèmes de protection contre les inondations. » Ah bah si, ça arrive et ça fait très mal quand on le vit. Ça m'a marqué à un point. En fait, c'est très simple. Après, j'ai dû aller chez des psychologues, et chez des psychologues même spécialisés dans le post-traumatique pour... arrivé à passer au-dessus, car directement après les inondations, bah, j'entendais la voix de mon père, je ne dormais plus en fait, j'ai perdu quelque chose comme 4 kilos en une semaine, pour ensuite en reprendre 10 2 semaines après, parce que tout mon métabolisme, tout était parti complètement en vrille chez moi. Et oui, à ce moment-là, je me suis dit, bon bah, voilà Damien, tout ce que tu as jamais cru en sécurité par rapport au réchauffement climatique, ah bah c'est faux, c'est juste faux, tu n'es pas en sécurité, tu peux littéralement mourir du jour au lendemain. Tu aurais pu mourir du jour au lendemain. Et c'est maintenant qu'il faut agir parce que tu n'as plus le temps. Le temps, tu l'avais il y a peut-être 10 ans. Maintenant, c'est fini, c'est maintenant.
Toute cette eau qui était entrée dans sa maison, c'est comme si elle avait, après, imbibé son quotidien. Il m'explique que les mois qui ont suivi, pour gérer l'anxiété, il a cherché des infos sur les réseaux sociaux, des explications, des contacts avec d'autres sinistrés ou des activistes. Et ont émergé alors de nouveaux objectifs. Avec 4 autres jeunes Européens, il a choisi de porter en justice son histoire, leurs histoires.
Il y a une Française, une Allemande, une Suisse, un Grec, qui sont aussi tous des victimes du changement climatique. J'avais déjà quelques déclics avant où je m'étais dit, bon bah voilà, maintenant, il faut être plus dans le climat. J'ai fait quasiment toutes les marches en fait, de Youth for Climate à Bruxelles, Fridays for Future. J'avais toujours été à ça, mais je me disais, oh c'est bon, il va y avoir une réaction politique derrière, qui n'a pas, hélas, eu pas assez fort. J'en ai subi les conséquences, et après, bah voilà, j'étais toujours dans, ok, si je peux faire quoi que ce soit pour empêcher ça à d'autres personnes, bah je dois le faire parce que je n'ai envie que personne sur Terre, absolument personne, même pas mes pires ennemis, puissent vivre ça. C'était horrible.
Alors là, sous les arbres, il fait bon, mais à ce moment-là, Damien Mongon me propose de quitter la verdure pour l'autre côté du boulevard, la rive Bureau, celle qui l'a amené à choisir cet endroit. En traversant la route, il m'explique qu'il poursuit 12 États devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont la Belgique et ses voisins, la France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne. Ces États, à ses yeux, ne peuvent pas à la fois garantir le respect des droits de l'homme et être membres du TCE. Le TCE, c'est le traité sur la charte de l'énergie, un texte très décrié. J'avais déjà fait quelques recherches et j'avais appris que ce traité a été signé il y a près de 30 ans, en 1994. Dans l'Est de l'Europe, ces années-là, les États qui sortaient du communisme étaient de nouveaux marchés à investir par les compagnies d'énergie. Mais avant d'y dépenser de l'argent, d'y construire des centrales, des conduites de gaz, les investisseurs voulaient la garantie qu'il n'y aurait pas de marche arrière, que ces marchés allaient rester ouverts. Et ce traité a été signé pour leur garantir cette stabilité. Mais aujourd'hui, cet accord-là pèse sur les États qui l'ont signé. Par exemple, imaginons un État qui décide de fermer ses centrales à charbon, trop polluantes. La société qui a investi dans ces centrales peut lui demander d'être remboursée de ses investissements et réclamer l'argent qu'elle comptait en tirer dans les années à venir. Les États du traité ont peur de ces notes très salées et ils hésitent donc à bouger, à restreindre les énergies fossiles. C'est un vrai verrou du changement, disent les scientifiques du GIEC, les experts du climat. Bon, là, Damien Mongon s'est arrêté devant un immeuble.
Bon retour à la porte de l'enfer.
C'est quoi la porte de l'enfer?
C'est le secrétariat du TCE. Il est écrit là-bas, Energy Charter. L'endroit est particulièrement bien choisi. Le greenwashing comme on aime bien. Près d'un parc, près d'une piste cyclable. Ça me fait bien rire de voir une piste cyclable à côté d'un bâtiment qui protège les investissements dans les énergies fossiles. C'est toutes ces personnes qui vont sur cette piste cyclable pour éviter de prendre la voiture, pour faire de leur mieux, pour avoir une empreinte carbone la plus basse possible. Ah bah, tous leurs efforts sont un peu détruits d'un revers de la main par la protection qu'offre ce bâtiment. Ah bah regardez, juste devant la porte, on peut revoir le demande de permis d'environnement pour un bassin d'orage de 31 mètres cubes. Comme quoi, quand on sait l'implication du TCE dans le changement climatique, ça fait rire jaune. Voilà.
Damien Mongon espère une décision de justice qui pousserait ces 12 États à quitter ensemble le traité, et vite. C'est connu, un procès ça coûte. Je me suis demandé comment ces 5 jeunes payent leurs avocats. J'ai contacté des associations de défense de l'environnement pour savoir si elles les soutiennent. Et effectivement, les frais de justice de ces jeunes sont payés par une fondation. Ça s'appelle la Fondation pour le droit international et l'environnement. Et ils sont conseillés juridiquement par un institut qui s'appelle Institut Veblen, qui promeut, c'est écrit sur leur site, les idées économiques et les politiques publiques qui font avancer la transition écologique. Derrière ces deux structures, des dons de philanthropes, de donateurs anonymes.
Bonsoir.
De telles actions en justice se multiplient aujourd'hui dans le monde.
Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
Pour inaction face au dérèglement climatique.
Il y en a déjà eu plus de 1800. Des actions donc de citoyens, souvent soutenues par des associations comme celle-là ou de plus grandes ONG, parce qu'elles voient dans les tribunaux un levier.
Alors tous ensemble, face aux injustices.
En France, il y a eu l'affaire du siècle.
L'inaction climatique, on va mettre notre État devant ses responsabilités.
Les autorités belges condamnées pour leur politique climatique.
En Belgique, il y a eu Klimaatzaak avec 60 000 citoyens plaignants.
Klinkende overwinning voor de milieubeweging.
Aux Pays-Bas, l'affaire Urgenda.
Dit is een historische moment. Het is prachtig.
Il y a eu une action d'enfants au Portugal, de grands-parents en Suisse.
Kids, teachers, parents, they were even singing grandmas.
D'adolescents aux États-Unis. Olivier de Schutter suit ces actions de près. Sous son casque de vélo, une tête pensante du droit et du climat.
Olivier de Schutter, je suis rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme.
Vous êtes par ailleurs aussi professeur de droit. Comme professeur de droit, en quoi est-ce que vous pensez que la justice peut être un outil face au changement climatique? Vous avez publié une carte blanche qui s'appelle « Nous demandons justice pour le climat ». Pourquoi la justice?
Écoutez, très simplement, la question du changement climatique, elle est connue et bien connue des scientifiques depuis au moins les années 1950. Et le rythme de progression des émissions n'a guère changé depuis. En d'autres mots, les gouvernements qui négocient depuis les années 1990 des réductions d'émissions, qui s'engagent à accélérer la transition énergétique, ne sont plus crédibles. Et il faut que les gouvernements soient à présent obligés de rendre des comptes, et les juges sont là pour cela, pour protéger les droits des générations futures, protéger le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au respect de la vie privée, qui sont les droits sur lesquels on prend appui aujourd'hui pour amener les juges à demander des gouvernements qu'ils fassent davantage pour l'atténuation du changement climatique.
Est-ce que c'est un peu utiliser la justice pour faire de la politique?
En réalité, on a des accords sur le changement climatique depuis la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 1992. Mais ces accords ne contiennent pas de mécanismes de sanction forçant les gouvernements à respecter leurs promesses. À l'inverse, on a des traités relatifs aux droits humains qui contiennent un mécanisme de sanction, mais ces traités sont vagues sur la question du changement climatique. Et l'idée des procédures qui aujourd'hui sont entamées et qui se sont accélérées depuis 2 ou 3 ans, c'est de donner consistance aux droits humains, au droit à la santé, au droit à la vie, par exemple, pour que la question du changement climatique soit intégrée par les juridictions qui protègent les droits humains et renforce par conséquent le caractère obligatoire des conventions internationales sur le changement climatique.
Ces actions, est-ce qu'elles ont déjà pu aboutir à des changements de cap?
Alors, par exemple, lorsque la Cour suprême des Pays-Bas a reconnu que les Pays-Bas n'en faisaient pas suffisamment, les Pays-Bas ont dû revoir à la hausse leurs ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, on a des décisions de justice qui ont pour effet d'obliger le gouvernement à renforcer leur action en matière d'atténuation du changement climatique, même si d'autres décisions sont un petit peu plus symboliques. L'affaire Klimaatzaak en Belgique a débouché sur une décision du tribunal de première instance de Bruxelles qui constate que les pouvoirs belges ne font pas suffisamment, mais ils laissent aux politiques le soin de définir le rythme auquel ils doivent progresser.
Donc un juge peut forcer un gouvernement à changer de cap. Ces jugements ont donc un vrai poids politique. Olivier de Schutter ajoute qu'un juge n'est pas dans les mêmes conditions pour trancher qu'un gouvernement.
Les gouvernements de tout niveau de pouvoir sont extrêmement paralysés par l'action des grands acteurs économiques qui sont en fait partisans du statu quo, qui les arrangent. Et pour les gouvernements, il est très difficile d'imposer des trajectoires trop contraignantes qui risquent de faire perdre des emplois ou de ralentir la croissance économique. Et donc, la justice est en quelque sorte mieux outillée pour répondre de manière indépendante des lobbies et des préoccupations immédiates à ces questions de droits humains que pose le changement climatique.
Je comprends mieux en l'entendant pourquoi des citoyens et des associations tentent le coup. Là, on avait tout juste terminé notre discussion et coupé le micro. Mais Olivier de Schutter se rend compte qu'on n'a parlé que des États assignés en justice et pas des entreprises, alors qu'elles sont de plus en plus souvent concernées. Alors j'ai rallumé le micro.
plus de deux tiers des émissions de gaz à effet de serre depuis les débuts de l'ère industrielle, 72% pour être précis, sont attribuables à une centaine d'entreprises que l'on connaît, que l'on a identifiées, du secteur des énergies fossiles, de la pétrochimie et du ciment. Ce sont ce qu'on appelle les majors du carbone et ce sont ces entreprises qui font l'objet aujourd'hui d'actions. Par exemple, devant le tribunal de La Haye, qui oblige l'entreprise Shell à réduire ses émissions de 45% à l'horizon 2030 par rapport à l'année 2019, y compris en surveillant les émissions de gaz à effet de serre de ses fournisseurs. Et c'est très intéressant parce que ça permet de contourner l'inertie des gouvernements, ça permet de s'adresser directement aux principaux acteurs responsables du changement climatique et on sort alors de la fiction que la réponse au changement climatique réside dans les gestes des consommateurs, les éco-gestes quotidiens que l'on peut poser. Ce sont ces grands acteurs industriels aussi qu'il faut littéralement amener à rendre des comptes et c'est ce que font ces actions judiciaires.
Olivier de Scutter, en reprenant son casque de vélo, ajoute « Même quand ces actions échouent, ces procès-là sont des moments intéressants de débat d'arguments sur les questions climatiques. » C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'aller écouter l'une de ces audiences.
La Cour.
Attendu qu'aussi bien il est actuellement admis en doctrine comme en jurisprudence.
Dans la bouche des professionnels de la justice, les mots semblent prendre un autre sens, ou n'avoir pas de sens du tout pour le commun des mortels.
Sans que la procédure d'exéquatur
soit nécessaire. Bon, pour ça, il faut braver le labyrinthe du palais de justice. Son langage, pas si limpide.
Les jugements étrangers statuant sur l'état et la capacité des personnes sont en règle générale valables.
Ou alors, une bonne série judiciaire sur Netflix. C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.